Philippe Joffard, bonjour.
Bonjour.
On va parler avec vous du journal de bord d'un patron, hein, votre vie comme entrepreneur dans la crise, c'est le sous-titre, donc on va y revenir ensemble. Vous êtes l'ancien dirigeant de l'AFUMA, société qu'on avait eu l'occasion sur labourseetlavie.com, bien sûr, de voir et de parler de stratégie ensemble il y a quelques années maintenant. Dans ce journal de bord, vous revenez sur cette période. Avant de revenir sur le déclencheur de cette crise que vous avez vécue, vous, de l'intérieur, vous aviez quand même réussi à faire de cette petite entreprise une entreprise internationale.
Oui, parce qu'on est parti d'une PME qui faisait un peu moins de 100 millions de francs de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 15 millions en 84, lorsque j'en ai pris la direction générale, puis rapidement la présidence, une ETI assez emblématique dans l'univers de l'outdoor, puisqu'on est allé jusqu'à 270 millions d'euros de chiffre d'affaires, et avec pratiquement 50% à l'international.
Cette période-là, quand même, qui est la période, on va dire, de croissance, quels sont les ressorts, justement, pour arriver? On le sait, en France, on parle beaucoup de ces sujets, de PME qui ont peut-être du mal à devenir des ETI, de grandir à l'international. Ce n'est pas facile pour une PME française. C'est quoi les clés, finalement, pour essayer de réussir ce chemin-là?
La première clé, c'est quand même le plan. L'ardente obligation du plan, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut. Je suis arrivé à un moment un peu difficile, pour ne pas dire très difficile, de l'entreprise. Donc, la première action que j'ai eue, ça a été l'innovation. Enfin, on n'appelait peut-être pas ça exactement, enfin, le développement de nouveaux produits, de nouvelles lignes. Donc j'ai élargi l'offre de la marque LaFuma, qui était une marque relativement fortement connue. Donc le deuxième élément a été l'international, le troisième la croissance externe. Mais à partir du plan, l'innovation, nouveaux produits, nouvelles lignes, l'international, puisqu'on a misé sur l'international dès le milieu des années 80, et avec une forte présence en Asie, et puis la croissance externe avec quatre acquisitions, enfin plutôt, mais quatre acquisitions en termes de marques qui ont été majeures. On en a fait d'autres.
Alors vous êtes dans ce secteur du textile et de la distribution, de la grande distribution, mais également de cette production industrielle dont on parle aujourd'hui avec la crise en Chine. Voilà, on sait qu'il y a une grande production en Chine, donc il a fallu aussi s'adapter à ce marché, à votre marché. Vous étiez une marque française, mais en termes de distribution, en termes de fabrication, il a fallu gérer cette industrie textile. Comment on fait ça?
Alors, l'AFUMA a été textile. D'ailleurs, on a été parmi les premiers à gérer la délocalisation et parmi les premiers aussi à réenvisager une réinternalisation, une relocalisation. Je m'explique. Donc, on est parti en Tunisie, puis après au Maroc, puis en Hongrie, lorsqu'il y a eu la première guerre du Golfe, qui correspondait d'ailleurs à l'ouverture des pays d'Europe centrale. Et dès le milieu, la deuxième moitié des années 90, on est allé en Chine. On y était déjà par l'intermédiaire de notre filiale de Hong Kong, qui avait une double vocation, commerciale et sourcing, et on a ouvert une usine à Nanjing. Donc moi j'ai bien vécu la croissance de la Chine, hein, qui est partie, c'était rien dans le PIB mondial au début des années 90, maintenant on sait que c'est 16%. J'ai toujours pensé qu'il allait y avoir une relocalisation pour des raisons très simples qui étaient la capacité que nous avions via l'innovation, via d'ailleurs l'automatisation, à avoir des produits dans lesquels la main-d'œuvre, ou alors à ce moment-là notre valeur ajoutée innovation, faisait la différence avec la Chine. On pourra parler d'ailleurs d'expériences que j'ai eues depuis mon départ à LaFuma et qui montrent que c'est possible. Je vous donne un exemple chez LaFuma. Le sac à dos avait entièrement été délocalisé, dans un premier temps en Tunisie, puis après en Chine pour des raisons de coût de main-d'œuvre. Inversement, le mobilier de camping, hein, qui fait maintenant 50 millions sur ce qui reste de LaFuma, malheureusement, parce que c'est le seul truc qui, grosso modo, a bien tenu. 100% est fait en France et c'est la meilleure rentabilité du groupe avec 14 à 15% d'EBITDA. Donc c'est la preuve qu'un groupe peut se développer, ce qui a été mon cas. Bon, encore une fois, on reviendra peut-être sur la situation de LaFuma aujourd'hui, peut se développer en étant fortement présent à l'international pour produire et en même temps en gardant une forte présence en France pour fabriquer dans des conditions d'ailleurs de produits vendus absolument partout dans le monde puisque la part française est minoritaire dans la vente du mobilier de camping.
Oui, on retrouve ce sujet innovation au cœur hein, finalement et on le sait pour beaucoup de PME, si on est sur du moyen de gamme, si on est alors, bas de gamme, n'en parlons pas, mais même du moyen de gamme, ça ne suffit pas dans la durée effectivement puisque la Chine aussi monte en gamme. Je discute avec certains acteurs qui sont dans cette industrie-là qui vont vendre des robots de découpe, par exemple, et la société Electra, pour ne pas la nommer, qui dit, ben voilà, on voit l'industrie chinoise qui est en train de monter en gamme aussi.
Ouais, moi, j'ai vraiment vu la Chine passer de l'usine du monde au magasin du monde. Ça reste encore l'usine du monde, même si bon, le problème du coronavirus fragilise considérablement cela. Mais je pense que l'usine du monde est en train de se rééquilibrer selon la géographie. En revanche, le magasin du monde, ça veut dire à la fois le retail le plus innovant et le consommateur le plus exigeant, aujourd'hui, il est en Chine. C'est-à-dire là, si vous regardez le retail, les meilleures idées sont en Chine, et le consommateur qui est le plus ouvert à l'innovation, le plus ouvert aux nouvelles tendances, c'est le consommateur chinois. Et ça, en une génération et demie, quoi. Je ne pourrais pas dire une seule génération.
Justement, on entend parler avec ce coronavirus de sujet de réindustrialiser, de faire revenir des industries en France. Est-ce que c'est possible et qu'est-ce qui manque pour qu'on retrouve ce dynamisme d'industrie qu'on a eu?
Bon, c'est possible, et c'est non seulement possible, mais nécessaire. Tout est en place. La question, c'est uniquement une question de volonté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on a les matières premières, nous avons les machines. En revanche, la capacité à mettre en œuvre ça, c'est-à-dire à faire en sorte de sortir les produits qui seront compétitifs dans une fabrication, j'allais dire pas seulement française, mais européenne, c'est beaucoup plus paradoxalement les Chinois qui l'ont. Il n'est pas intéressant de penser que, parce qu'eux ont une capacité à penser l'avenir qui est beaucoup plus rapide et efficace que nous ne l'avons. Donc c'est une question de volonté. On a un temps court, mais rien que ça vaudrait une interview. Je vous donnerai deux exemples que j'ai vécu récemment, puisque j'ai dirigé un groupe de puériculture dans lequel j'ai rapatrié un produit qui était fabriqué en 25 minutes en Chine, qui est fabriqué en 10 minutes en France, et toutes les pièces qui ont été divisées par 3, c'est-à-dire le nombre de pièces ont été divisées par 3, et à ce moment-là, si vous prenez chacune de ces pièces, c'est de l'acier, c'est du plastique, et globalement, ça coûte le même prix partout. Et donc tout ça est écrasé par le prix transport, donc c'est mieux en Europe, et pour les Chinois, en revanche, c'est beaucoup mieux d'acheter sur ce type de produit une signature Made in France. Donc c'est possible.
Oui, c'est possible. Voilà, il y a une organisation, il y a un savoir-faire quand même. Alors, si on revient sur le journal de bord d'un patron, hein, votre ouvrage, il y a quand même cette crise de Lehman Brothers, bien sûr, la faillite de Lehman Brothers, ce choc mondial. C'est vrai qu'il y a eu peu d'entreprises qui l'ont anticipé. C'était difficile. Il y avait peut-être des signaux faibles. On parle de ça des fois sur les marchés financiers. Quand c'est arrivé, qu'est-ce qui a changé pour vous finalement? C'est parce que vous parlez dans le livre à la fois de l'actionnariat. Il y avait un actionnariat familial, mais il y avait aussi d'autres actionnaires, de vos relations avec les banques. Quand arrive cette crise, mais vous parlez aussi de l'interne, en disant finalement l'interne ne croyait pas trop aux conséquences de cette crise.
Oui, enfin, d'abord parce que généralement les dirigeants protègent son management pour une raison très simple d'ailleurs, parce que c'est pas eux qui vont forcément régler le problème, ils vont être dans l'action et il faut qu'ils soient totalement dans les opérations. Donc pourquoi les embêter avec des problèmes qui sont généralement des problèmes bancaires, de financement, etc., etc. Il faut leur mettre la pression sur le BFR, la pression sur la rentabilité, sur la rapidité à transformer les choses, etc. Mais grosso modo, bon, et en étant protégés, ils sont forcément un peu une part d'inconscience par rapport au risque que peut courir l'entreprise. La particularité de la FUMA, c'est que nous avions fait une acquisition juste avant, c'est-à-dire on a racheté Eder en juin 2008. Et nous avions la particularité, vous vous souvenez Didier, on clôturait nos comptes le fin septembre. Donc on a été parmi les premières entreprises cotées en bourse qui n'ont pas respecté un covenant bancaire quelques semaines, voire quelques jours après la faillite de Lehman Brothers, donc le monde était à feu et à sang. Donc bien évidemment, on s'est pris plein pot. Donc une négociation qui est une négociation relativement, je ne vais pas dire classique et facile, bon, on manque un covenant, on en avait deux, on a respecté un, on en manque un. Ça s'arrange, je ne vais pas dire que... Mais là, ça a été beaucoup plus compliqué, avec quid de l'arrêté comptable, machin, quid, qu'est-ce qu'on fait de la dette, enfin, bref, toute une histoire qui fait que pendant trois mois, enfin, globalement, les trois premiers mois ont été particulièrement pénibles, mais les six mois ont été, après, ça a été un peu plus constructif, si je puis dire, parce qu'on avait mis en place les solutions, mais je veux dire que ça a été... Et c'est ce que je raconte, et je ne vais pas vous dire que je l'avais anticipé, pas du tout, mais... puisque le journal commence en décembre 2007. Je savais qu'on allait vivre une période particulière, mais ça n'empêchait pas que je considérais que la vitesse était majeure, que ce soit dans le développement et éventuellement dans la réorganisation. Donc j'ai écrit ce livre parce que je voulais pratiquement tous les jours, c'est pas tous les jours, mais enfin, avoir un rendez-vous avec moi-même pour noter ce qui se passait. Parce que j'avais souvent constaté que soi-même, on pouvait changer d'avis. Donc c'est important de se relire, de, etc., etc. Donc voilà, donc c'est ce livre qui court sur un an et des poussières. Et puis après, il y a d'autres épisodes qui sont postérieurs à cette période.
Justement, entre l'actionnaire, parce que finalement, c'est la FUMA, entreprise familiale, 25% du capital. On se dit en général, les entreprises familiales, bon, ça se passe pas trop mal, sauf exception. Il arrive qu'il y ait des sujets aussi dans les entreprises familiales. Il y a eu des entreprises avec les actionnaires, il y a eu des sujets avec les banques. Donc, il y a des banques qui, dans cette période-là, n'ont pas joué le jeu, c'est-à-dire d'accompagner l'entreprise, qui pouvaient être des
Oui,
banques historiques
on
même.
avait un pool de banques. Classiquement, les banques entre elles, c'est la famille Adams, hein. Donc, si on devait parler clairement, voire même parfois au sein même d'un même groupe bancaire, il peut y avoir des tensions qui sont importantes. Là, la période était tellement particulière que j'ai eu quelques banques que je cite, qui ont été, dont une bien connue, qui a été quand même particulièrement et inutilement agressive. Avec d'ailleurs un paradoxe qui faisait que toutes les. Je serais tenté de dire, on avait fait une opération au moins avec eux qui était Oxbow. Toute la partie FUSAC croyait incroyablement dans l'intérêt de la FUMA, et en même temps, je serais tenté de dire, les activités de banque classique, elles, étaient plutôt figées, craintives, etc. Côté actionnariat, il y avait trois groupes en quelque sorte. Il y avait le groupe familial, le groupe des financiers, dans lequel il y avait la Caisse des dépôts. Enfin, il y a eu après la Caisse des dépôts, parce qu'il y a eu deux moments dans la crise, que j'ai fait rentrer d'ailleurs la Caisse des dépôts à ce moment-là, et le flottant. Globalement, la famille était parfaitement structurée et consolidée. Les financiers, encore une fois, c'est comme les banques, c'est-à-dire en fait, ils sont tous très différents. Bon, et là, il est apparu des fractures, et je serais tenté de dire le fait que. Que la société ait résolu rapidement et que j'ai participé à la résolution rapide des problèmes, parce qu'il y a eu 3 mois de difficultés, mais 3 mois de reconstruction. On a été parmi les premiers, au contraire, à apporter des solutions, puisque dès mars, on avait restructuré, mars-avril, on avait restructuré le capital, etc. On était reparti, pour dire rapidement. Finalement, ça a créé des jalousies, des tensions. Je m'étais quand même retrouvé très seul à cette période. J'avais constaté des administrateurs qui donnaient des leçons en permanence, mais ils donnaient des leçons, mais lorsque les leçons pouvaient être utiles, si je puis dire, là, il n'y avait plus personne. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde était aux abris, et enfin, la plupart de ces gens-là avaient du mal à sortir de leurs abris sans casque ou sans protection.
Ça veut dire que finalement, de l'extérieur, voilà, moi je connais un certain nombre de dirigeants avec qui j'ai pu échanger, mais de l'extérieur, finalement, on n'imagine pas ce que vous avez décrit dans votre livre, finalement, au jour le jour, ce qu'un dirigeant d'entreprise, dirigeant de PME, vit au jour le jour, à la fois avec ses banques, avec ses actionnaires, avec ses salariés, pour faire en sorte que l'entreprise, dans cette période-là, surfe sur la vague, si on
Oui,
prend.
bon, il y
Voilà,
a rajouté clients et fournisseurs d'ailleurs, parce que c'est un ensemble. Et bon, ben ça, la solidité du patron, c'est pas un élément nouveau. Il est
on en
seul, mais en
parle
même
peu, on
temps,
en parle peu.
oui, on en parle peu, mais en même temps, il est accompagné à lui de trouver. Mais chaque moment est différent, on est soutenu. La seule différence, c'est qu'on voit que des gens qu'on croyait courageux ne le sont pas tellement, voire pas du tout. Ceux en revanche qui sont assez neutres se révèlent dans les difficultés un soutien réel. Ils étaient, je ferais dire, plutôt silencieux mais efficaces. Ils sont toujours relativement silencieux, mais encore plus efficaces quand il s'agit en effet de surmonter des difficultés. En fait, de toute façon, les crises, au moins l'avantage, c'est que ça révèle les hommes. Ça révèle les dirigeants, parce que tous les dirigeants ne tiennent pas le choc de ce type de crise. Et ça révèle aussi les hommes et les femmes qui vous entourent. Ça vaut jusqu'à la famille, d'ailleurs, au passage.
Oui, exactement. C'est une double vie, on va dire, pour le dirigeant, effectivement, à gérer. Il y a un moment donné, effectivement, vous décrivez très bien que voilà, la situation n'est plus tenable. Il faut trouver des solutions. Ça a dû être quand même pour vous difficile, compte tenu de ce que vous aviez fait auparavant, bien sûr, pour cette entreprise, à un moment donné, d'être obligé de quitter et de céder cette entreprise.
Alors ça a été 4 ans, 5 ans après, puisqu'en
Oui.
fait la crise s'est terminée en 2009, et j'ai quitté, oui, 4 ans après, donc début 2013. Et ça a été en fait la suite. D'abord, ce que j'ai appris, c'est que des mondes très solides pouvaient en effet rapidement s'écrouler. Bon, et moi, j'avais pris beaucoup de risques dans cette entreprise. Les actions, je les avais achetées, etc., etc. Enfin, j'étais parti d'une petite part familiale, puisque j'étais la troisième génération. Petit à petit, j'avais constitué ma part au capital. Et je me suis dit, mais finalement, j'aurais travaillé pendant 25, 27, 28 ans pour me retrouver dans une situation absolument impossible. Et puis bon, ça relativise la relation collaborateur, la relation actionnaire aux banques, etc., etc. Donc j'ai commencé à penser à l'avenir. Bon, ça c'est l'autre partie du livre. Et c'est vrai lorsqu'il y a eu la possibilité de sortir, il y a eu différentes options. Il y avait une option que j'aurais préférée, qui était l'option de la reprise par une société asiatique, ce qui d'après moi aurait été infiniment plus important et plus favorable pour le groupe, ils auraient accéléré le développement en Asie et ils nous auraient soutenus dans le développement, j'appellerais occidental et japonais, parce qu'ils laissaient d'ailleurs le Japon aux Occidentaux. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça. C'était un livre à écrire à part entière. J'ai eu des activistes, en fait, internes, de manière totalement inattendue. Bon, c'était une période de changement, puisque ça s'est joué sur l'année 2012. Une majorité est partie. La Caisse des dépôts, qui était un soutien efficace, s'est révélée après l'arrivée de Hollande et Juillet à la caisse, non pas un soutien, mais un risque supplémentaire, et j'en ai tiré toutes les conséquences.
Voilà. Alors aujourd'hui, si on regarde la FUMA, j'ai vu récemment, avant qu'on fasse cette interview, des cessions d'actifs. J'ai vu aussi le cours de bourse, c'est une catastrophe. Alors vous ne pouvez peut-être pas trop en parler, mais
Oh, je
on
peux en
peut
parler
dire
tout
que oui.
simplement. Le groupe est en passe d'être complètement démantelé. C'est-à-dire que, en fait, on avait, je pense, une ETI emblématique. Quand vous m'invitiez, c'était pour ça. Et généralement, en France, l'obsession, c'est de transformer les PME en ETI. Là, c'est l'inverse. On a transformé une ETI en PME. Et quant au cours de bourse, bah, écoutez, moi, j'ai vendu à 26. Je pense que d'ailleurs que s'il y avait eu une véritable cohésion, les Chinois auraient acheté à. Ou les Coréens auraient acheté à plus, et le cours n'a jamais dépassé depuis mon départ, le 24, je crois que c'est à 18 ou 19 actuellement. Bon, sans commentaire, comme dirait l'autre, je savais ça, je ne pouvais pas le dire, quoi. D'ailleurs, le livre est une des raisons, parce qu'il y a un chapitre un peu là-dessus. Quand je suis parti, j'ai accompagné, comme on dit dans ces cas-là, on est payé pour ne rien faire en fait, comme consultant, pendant 1 an et demi. Donc j'ai vraiment vu se construire l'échec annoncé. Et vous pouvez rien dire, parce que vous savez, je pense toujours au héros de Pagnol qui a vendu ses oliviers mais qui ne veut pas qu'on les coupe. Donc votre voix n'est pas vraiment audible, parce que dans tous les cas, c'est soit de l'amertume, soit quelqu'un qui s'est trompé, qui va se tromper, puisqu'il y a évidemment beaucoup de diabolisation du passé dans ces cas-là. Donc j'ai vraiment vu les Suisses mettre en œuvre leur stratégie, conseillée par Kurt Salmon, qui leur a coûté une véritable fortune pour rien. Le patron suisse s'est fait débarquer 2 ans après. Voilà, et après c'est allé, ben, c'est simple, hein, le groupe a fait 170 millions l'année dernière, et là avec les cessions qu'ils sont en train de faire, ils vont le ramener à 100 ou 120 ou 120 millions. Donc voilà, je suis à la fois désolé parce que je ne me reconnais pas dans cette aventure, et puis en même temps, bon,
Tenez.
voilà, pas étonné de
Sur
ce
le
qui s'est
fond.
passé.
Aujourd'hui, justement, alors vous avez parlé d'entreprises que vous avez pu faire développer, donc continuer sur ce côté entrepreneur, hein, mais cette fibre-là n'a pas changé de votre côté, mais si vous deviez tirer des leçons finalement de cette aventure, il n'y en a pas, voilà, il y en a pas quand même beaucoup de ce type-là, parce que ça a été quand même dur, vous le racontez très bien dans le livre. Quelles leçons vous tiriez aujourd'hui de ce type d'aventure, et y compris pour ceux qui entreprennent d'ailleurs, ou des patrons de PME qui peuvent peut-être se sentir tranquilles aujourd'hui avec leurs conseils et leurs banquiers?
Quand on me demandait la définition d'un patron, j'aimais bien, il y avait une formule d'Umberto Eco, on lui disait qui êtes-vous? Il disait, il y a soit un optimiste inquiet. Et je trouvais que ça définissait très bien le patron, qui doit être en effet en permanence optimiste, sinon il ne fait rien, mais aussi il doit être inquiet, parce que le risque est permanent. Le risque avec un fournisseur, avec un client, avec un pays, parfois, il faut bien le dire, avec un collaborateur. Et l'actionnaire et la banque en sont possiblement un aussi. Donc en fait, il faut en permanence prévoir un certain nombre de coûts possibles, tout en gardant chevillé au corps cet optimisme. Il y a des moments où l'optimisme doit être à 80%, le pessimisme ou l'inquiétude à 20%, puis il y a des moments où en effet, je tente de dire, j'avais caricaturé ça en disant mégalo et parano. Mais je pense que c'est plus encore qu'optimiste, c'est-à-dire qu'un patron qui n'est pas mégalo, il ne peut pas construire. Quand vous pensez les nouveaux produits, quand vous allez dans un nouveau pays, au départ, franchement, c'est assez loufoque, parce que personne ne nous attend, surtout maintenant où globalement tout le monde a tout partout. Donc pour y aller, il faut non seulement avoir de bons arguments, bien sûr, on va vous parler innovation, machin, etc., mais il faut essentiellement du culot. Je vais dire du culot et les hommes qui vont adopter, les hommes et les femmes, qui vont adopter ce culot et faire en sorte qu'il soit le bras armé de cette ambition sur place. Mais en même temps, bah, il faut être très inquiet, parano, parce que voilà, moi j'ai vu des gens qui ont changé casaque et qui d'ailleurs ont perdu dans cette affaire, qui ont cru. Moi je me souviens très bien quand je suis parti à 26 euros. Il considérait que bon, il m'avait donné un prix tout à fait convenable, machin, etc., etc. Mais ils étaient à se frotter les mains. Qu'est-ce qu'on va s'en mettre? Ils sont tous partis entre 15 et 20. Je ne sais même pas d'ailleurs. Voilà, donc moi, je suis désolé pour l'entreprise, mais presque ravi pour ce qui leur est arrivé. Donc voilà, parce que vous avez beaucoup de gens qui paraissent très convenables, mais qui ne le sont absolument pas. Voilà, donc il faut le savoir.
Merci beaucoup Philippe Geoffard d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet entretien donc sur le journal de bord hein, d'un patron, un entrepreneur dans la crise que vous avez évoqué aujourd'hui. Merci beaucoup.
Et merci, j'étais ravi de vous retrouver surtout.